podcast Parents pour le plaisir, un podcast pour les parents parfois en galère qui veulent trouver la joie de la parentalité en Dieu le Père. Bonjour, et si vous nous rejoignez, je m'appelle Chloé.
Moi c'est Nico.
Et moi c'est Rachel.
Dans le dernier épisode, que je vous invite à écouter si vous ne l'avez pas encore fait, on s'est posé la question de notre motivation future. Qu'est-ce qui nous motive dans notre parentalité et qu'est-ce que Dieu dit à ce sujet dans la Bible? On a mis un accent sur la bienheureuse espérance du chrétien et de l'impact d'une anticipation intentionnelle de ce jour de jugement et ses implications concrètes vis-à-vis d'une existence éternelle pour moi-même en tant que parent et aussi pour mon enfant. Mais aujourd'hui, ma chère Rachel...
Merci, oui, on va aborder le sujet du passé. Donc voici une réalité auquel on fait tous face en tant que parent, c'est que mon passé aura un impact conséquent, alors que j'en sois conscient ou non, mais il aura un impact sur ma parentalité et sur ma relation avec mon enfant. Donc il s'agit de la culture familiale, voilà comment j'ai été élevée moi-même, mon propre parcours à l'école, professionnel, toutes sortes de choses que moi j'ai vécues avant d'être parent auront un impact. Donc, qu'on en soit conscient ou pas. Ça, c'est la réalité. Voici un principe qui nous aide à faire face à cette réalité. C'est que plus je suis conscient de ces diverses influences de mon passé, qu'elles soient positives ou négatives, plus j'aurai la capacité de les évaluer, puis de faire des choix concernant alors l'inclusion ou l'exclusion de ces influences, parce qu'elles seront bonnes ou mauvaises. Donc, tout ça en lien avec ma stratégie familiale réfléchie. Alors, on se pose deux questions pour notre discussion aujourd'hui. La première, c'est de quelle manière mon passé influence ma parentalité d'aujourd'hui. Et notre deuxième question sera comment est-ce que la grâce de Dieu qui se révèle en Jésus-Christ change ma perspective sur mon passé pour que j'en fasse en fait un sujet de joie pour moi et pour ma famille, plutôt que tout simplement la porter comme un poids, un fardeau qui est inutile et voire même parfois qui nous freine, qui nous pose difficulté.
Oui, en discutant de cette première question de quelle manière est-ce que mon passé influence ma parentalité aujourd'hui, je pense que c'est important de reconnaître dès le début que pour beaucoup de personnes, beaucoup d'entre nous, ce n'est pas du tout facile de faire face à notre passé. Justement, on a, je pense, une préférence en général d'oublier plutôt notre passé, d'enterrer certains aspects, en tout cas, de notre passé, plutôt que de les examiner comme on a vraiment besoin de faire pour pouvoir prendre décision si je veux continuer à me laisser influencer ou pas par certaines choses. Et de quoi part-on quand on parle justement de l'influence de notre passé? Peut-être c'est une question de souvenirs douloureux. Et je pense que ce sera le cas pour chacun de nous, certains souvenirs qu'on préfère pas inclure dans notre réflexion. On préfère justement oublier ces choses. Pareil pour des secrets honteux, pour des relations brisées ou des relations où on a des regrets, des situations de conflit mal réglées, des blessures mal soignées, des situations d'échec ou des déceptions qu'on a mal digérées, ou peut-être même des mensonges ou des trahisons qu'on a jamais confessées. Comme Rachel vient de dire, qu'on en soit conscient ou pas, notre projet familial sera influencé par un certain nombre de ces choses. Et donc l'encouragement aujourd'hui de cet épisode, c'est qu'on ait le courage par la grâce du Seigneur pour faire face à ces réalités-là et les examiner à la lumière de la parole de Dieu. Donc peut-être on peut commencer avec quelques exemples, juste pour rendre ça un peu plus concret. J'ai parlé un peu de différentes catégories, mais est-ce que Chloé, tu aurais un exemple peut-être de ce qu'on est en train de parler?
Ouais, c'est à mon tour d'être sous les feux des projecteurs avec mes parents et mes problèmes de parentalité mal réglés. Mais en fait, c'est pas un gros problème qui pourrait être lié à des choses que tu as citées ci-dessus, Nicolas. Mais Un de mes trois enfants est potentiellement en train d'être diagnostiqué avec un trouble de l'orthographe, la dysorthographie. Et notre temps de devoir est toujours très douloureux pour lui et pour moi parce que je me mets tellement en colère quand il orthographie mal un mot et que son orthographe est complètement différente d'une fois sur l'autre. Il va tenter toutes les combinaisons possibles. On a l'impression qu'il n'y a aucune structure logique. Enfin, et au lieu d'être patiente avec lui et de juste décrypter avec lui pourquoi il fait faux, etc., ça me met en colère. Une rage noire en fait. Et du coup, je termine en criant sur lui. Et en discutant avec mon mari, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout rationnel ou approprié comparé à l'offense, entre guillemets. Mon fils souffre d'un trouble potentiellement d'orthographe. Et en réfléchissant un petit peu, je me suis rendu compte que dans ma culture familiale, bien écrire, c'était un énorme sujet de fierté. On pouvait être mauvais en maths, mais on ne pouvait pas être mauvais en orthographe parce que derrière ça, c'était si tu écris bien, les gens vont penser que tu es quelqu'un de bien, que tu as des choses importantes à dire et ils vont t'écouter. Et donc notre position, notre place dans le monde dépendait de notre capacité à bien s'exprimer et à bien écrire en français. Et c'est comme ça que j'ai remarqué qu'en fait, l'orthographe, qui en soi est neutre, est devenue une valeur forte pour moi qui me poussait à mal à être un mauvais parent pour mon fils, en fait.
C'est impressionnant de voir en fait la prise de conscience de cette influence-là pour toi, Chloé. Justement, alors que ça aurait pu continuer à être une source de friction et de tension avec ton enfant, maintenant que tu sors en fait cette réalité, tu regardes à la lumière, tu as cette capacité maintenant de décider, OK, qu'est-ce que je vais en faire? Et rien que le fait, je pense, d'être conscient de ça, que je peux imaginer que ça a un impact sur ces moments avec ton fils.
Oui, c'est pas résolu, mais comme tu as dit, en tout cas, ça me donne l'opportunité de traiter ce problème et de commencer à travailler, en tout cas, dessus.
C'est excellent et je pense à une autre juste anecdote qui va dans cette même direction que j'ai lue récemment dans un bouquin sur la parentalité où c'était un psychologue qui parlait de la naissance de son premier fils et qui trouvait que quand son fils pleurait, surtout quand il pleurait et avec sa femme, les deux, ils n'arrivaient pas à trouver une solution. Il commençait à, lui, le psychologue, à faire des crises d'angoisse. En fait, il était submergé par des sentiments très, très forts et justement un désir de s'éloigner de son fils. Et dans le temps, c'est devenu assez inquiétant pour lui parce qu'il sentait dans son cœur qu'il voulait pas être avec son fils. Surtout parce qu'il avait peur de ces moments où il y aurait des pleurs, etc. Ce qui est fascinant, c'est que il a testé tout un tas de choses à droite et à gauche pour trouver des solutions. Et puis un jour, je rentre pas dans tous les détails, mais il a eu une espèce de flashback où il s'est souvenu d'une année pendant son internat, quand il était en train de faire sa formation universitaire, où il était en milieu hospitalier. Et avec un autre collègue, tous les jours, ils étaient censés donner des piqûres à des petits-enfants. Et c'était une expérience assez douloureuse pour ces enfants. Ça pleurait beaucoup. Et donc, tous les jours, pendant des heures, il était exposé aux pleurs d'enfants, parfois des enfants qui commençaient même à pleurer juste en arrivant dans la salle avec lui, en anticipation de la douleur. Il n'avait jamais examiner l'impact de cette année sur lui-même, en fait. Et en découvrant cette angoisse et en commençant à faire un travail sur lui-même, il a réalisé que, hop, cet événement de son passé avait quand même une influence conséquente sur son relation avec son fils nouveau-né.
C'est fou.
On devine dans ce que tu dis, Nico, quand même quelque chose de très lourd à porter ben, pour ce père de famille dans cet exemple que tu cites, de quelque chose, en fait, finalement, qui existait, qui était là, présent, mais qui a été révélé à un moment donné dans sa vie de parent. Et c'est vrai qu'il faut être conscient que certaines de ces influences, certaines de ces, de certains de ces vécus dans notre passé sont quand même lourds. Et pour lesquels il faut vraiment pas hésiter dans ces moments, en fait, on se rend compte de leur impact, de leur force, et puis bah parfois de la souffrance, et puis bah là, dans le lien avec son enfant, parfois, ce qu'on a vécu nécessite un bon accompagnement pastoral et il faut pas en avoir peur. Et il faut aussi franchir ce pas de demander d'être accompagné, d'être aidé par des personnes qui sauront nous aider dans ces domaines parce qu'il y a une plus ou moins forte intensité dans ce qu'on a vécu et ce que tu nous décris là est quand même vraiment important à solutionner, en fait, à apporter avec quelqu'un et pas continuer tout seul, quoi. Et c'est vrai
Exact.
que ce qu'on ait vécu, que ce soit plus ou moins impactant et lourd, on a tous besoin, en fait, de réaliser que ces choses, on va pas juste faire un constat et s'arrêter là. C'est que ces choses, on n'a pas besoin de continuer à les porter. Nous, dans notre. Alors, pour rebondir à ce que tu disais, Chloé, moi, j'aurais été peut-être pas mal dans une famille parce que je suis super nulle en maths, mais un peu meilleure en orthographe. Mais j'ai aussi vu, nous, l'influence dans l'éducation, dans ce que j'ai exigé de mes enfants, parce que moi-même, ayant grandi dans une maison très ordonnée, avec une maman voilà, qui avait toujours un intérieur bien rangé, assez minimaliste, je me suis juste dit que c'était normal. Et j'ai mis longtemps à réaliser, et c'est en discutant aussi avec mon mari, quoi, à quel point ça a influencé ma propre attitude avec mes enfants et parfois perturbé en fait la paix dans la famille et l'ambiance totale dans la famille parce que moi je demandais certaines choses même plus fortes que ce que ma maman nous avait demandé dans notre enfance, mais finalement ça avait un impact. Ça peut paraître anecdotique, ranger le salon avant de se coucher, sauf que la manière dont je le demandais et le faisais vivre avec ma famille était mauvaise. Et finalement, ce qui est merveilleux, c'est que en fait, on n'a pas besoin de s'arrêter au constat. On doit le faire, mais on peut ensuite avancer. Et je pense que c'est ça qu'on va évoquer maintenant. Qu'est-ce qu'on fait avec ces constats de l'influence de notre passé?
Oui, ça nous permet de passer à la deuxième question de notre temps ensemble. C'est comment est-ce que l'événement qui a changé l'humanité et qui est dans mon rétroviseur, dans mon passé, qui est la mort et la résurrection de Jésus et la grâce de Dieu manifestée en fait en Jésus à ce moment-là, comment est-ce que cet événement-là change la perspective de mon passé pour que mon passé devienne un sujet de joie pour moi et ma famille plutôt que de le porter comme un poids ou un handicap?
Je pense que c'est en lisant la Bible qu'on trouve bien des trésors, hein, forcément. Et comme au dernier épisode, l'épisode 2, on a lu un passage de Tite, on va rester dans ce même épître et lire quelques versets dans le chapitre 3. Donc je lis Tite chapitre 3, les versets 3 à 7. Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie, nous étions odieux et nous nous détestions les uns aux autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur. Ainsi déclaré juste par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers, conformément à l'espérance de la vie éternelle.
C'est rassurant de voir à quel point les écrivains bibliques et Paul notamment n'a pas peur de parler de son passé. Et là, c'est assez frappant même les mots qu'il utilise pour décrire son passé et le passé des chrétiens à qui il est en train de décrire. Et c'est rassurant parce qu'on voit à quel point Paul, il est convaincu des vérités puissantes que tu viens de lire, Rachel. Il n'est pas la même personne qu'il était. Il a une nouvelle vie par cette naissance. On parle d'un bain, de la nouvelle naissance ici par l'Esprit Saint. Il est déclaré juste aux yeux de son Dieu. Et étant quelqu'un de complètement nouveau par la grâce de Dieu, il n'a pas peur maintenant de regarder en arrière et d'examiner, même de parler ouvertement de ce qu'il était. Et ce qui est quand même frappant, c'est que je pense que nous, en tant que chrétiens, on a souvent même encore du travail pour saisir ces vérités puissantes afin de trouver du courage pour pouvoir regarder dans notre passé et prendre en compte en fait ces différentes influences. Et peut-être la question peut se poser, mais attends, Nico, si tu es né de nouveau comme l'apôtre Paul, tu as une nouvelle vie, pourquoi est-ce que ce serait nécessaire alors de regarder en arrière et de considérer les influences du passé? Ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez un peu de cette question-là.
Je pense qu'il y a un effet parmi les chrétiens qui est de se dire que puisque Dieu a été nous a fait grâce, en fait, on ferme les yeux sur ce qu'on était avant et surtout on n'en parle plus puisqu'il y a d'autres versets qui nous disent que Dieu a jeté nos transgressions dans une mer si profonde que personne ne pourra jamais les retrouver. Et on serait tenté de faire de même, sauf qu'en fait, on vit encore dans un état aujourd'hui où ces choses ont de l'influence sur notre vie malgré la nouvelle naissance et on est condamné entre guillemets à vivre quand même avec ces réalités jusqu'à ce que Dieu jusqu'à ce que Jésus revienne en fait et nous transforme complètement. Donc plutôt que de d'utiliser l'évangile comme une couverture pour nos péchés, utilisons l'évangile comme une nouvelle lumière en fait sur nos péchés, sur aussi les situations qui ont été faites, enfin les péchés qui ont été commis contre nous, je parle peut-être de situations d'abus ou de choses comme ça qui influencent notre présent, comme une occasion en fait de se réjouir de ce que Dieu a fait et comme une occasion de se réjouir des possibilités qui s'ouvrent à nous en fait pour les traiter de manière complètement différente de ce qu'on a fait jusqu'alors.
Oui, ça rejoint ce qu'on disait aussi dans le deuxième épisode, que finalement, regarder en avant et à notre espérance, ça joue aujourd'hui sur comment on vit les choses et nos réactions et notre parentalité. Et regarder en arrière pour voir à quel point Dieu a agi et continue à agir et à quel point sa grâce envers nous est grande, elle impacte aussi notre quotidien en tant que parents.
Tout à fait.
Si je peux peut-être juste revisiter les devoirs avec mon fils, avec cette lumière. Le fait que pour moi, je devais être quelqu'un dans ce monde en écrivant bien et la crainte que je peux avoir pour mon fils de bah, personne ne voudra jamais lire ce qu'il produit, n'aura pas de place dans ce monde. Quel effet l'évangile a sur cette situation, c'est de me dire qu'en fait, je n'ai enfin, le royaume de Dieu, c'est un royaume qui est à l'envers. Et pour rentrer dans le royaume de Dieu, il faut accepter d'être petit, d'être pauvre d'esprit, d'être faible. Et c'est en acceptant notre faiblesse et notre petitesse que on rentre dans ce royaume, en fait, où les premiers seront les derniers, etc. Et donc cette valeur d'être forte, d'être la première en orthographe, d'être importante dans ce monde, c'est une valeur qui appartient à ma nature passée, en fait. Et cette nouvelle lumière que l'évangile va apporter, c'est que, mais en fait, Chloé, t'as rien à prouver à personne. Parce que bah, Christ a tout prouvé à son Père, en quelque sorte, si on peut dire ça comme ça, pour que nous, on n'ait jamais rien à prouver. Et en fait, ton fils, s'il ne sait pas écrire, ou s'il a une mauvaise orthographe, ce n'est pas grave, ça va lui donner à lui aussi une opportunité d'être un de ces faibles, un de ces petits qui va être en capacité de reconnaître son besoin de Dieu, en fait. Et c'est quelque chose qui m'aide quand alors que je commence ce travail de ne plus être en colère contre lui pendant les devoirs.
J'espère que ça peut être rassurant pour un parent qui nous écoute et peut-être qui est chrétien, qui a Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, mais qui est confronté dans des contextes familiales et peut-être notamment avec les parents par différentes réactions, comme on a décrit aujourd'hui et dans les autres épisodes précédents. Des réactions qui ne reflètent pas du tout le royaume de Dieu ou une vie nouvelle. C'est vrai que ça peut être une source de confusion pour nous de dire, tiens, en fait, j'ai cette nouvelle vie en Jésus-Christ, mais pourquoi est-ce qu'il y a ces mêmes habitudes, ces mêmes tendances qui sont là? Et je pense que l'enseignement biblique est rassurant dans le sens où on reconnaît que oui, cette nouvelle naissance veut dire qu'il y a une nouvelle nature dans mon être intérieur, une nouvelle orientation. Je ne suis plus l'ennemi de Dieu. En fait, je reconnais que je ne suis pas le roi. Je veux que Jésus-Christ soit mon Seigneur. En même temps, dans mon corps, même dans mon cerveau, il y a des tendances, il y a des habitudes qui sont là depuis longtemps. Et ça va prendre du temps pour que j'apprenne de nouvelles habitudes. Et alléluia, Dieu ne nous laisse pas tout seul face à ce grand défi de changement. Il nous donne son Esprit Saint. Il nous donne sa parole, il nous donne son Église, des frères et sœurs qui nous entourent, etc. Mais il y a un vrai travail, les amis. Et donc, j'aimerais bien rassurer ceux qui nous écoutent du fait que oui, on peut être né de nouveau en Jésus-Christ, mais c'est pas surprenant quand même d'être confronté dans différentes situations, notamment dans le contexte familial, qui nous rappellent de notre passé et peut-être même qui révèlent certaines influences du passé qui restent encore actives dans nos vies. La grâce de Dieu est là pour nous transformer, mais ça va prendre du temps.
Je pense que ça peut être dur d'avoir des attentes de transformation immédiate déçues. Et en même temps, en Romains 12, versets 1 et 2, Paul il parle d'une transformation vraiment progressive de l'intelligence, en fait, qui rassure, comme tu dis, Nico, on ne devient pas tout de suite des personnes parfaites, mais on est en chemin. Et je pense qu'on peut voir, une fois qu'on a identifié ces influences du passé, elles deviennent des opportunités de les mettre en lumière, de les apporter à Dieu et de se laisser transformer par lui. Et donc c'est pour ça que c'est important de les identifier en fait dans notre stratégie familiale réfléchie.
Je pensais ajouter aussi à ça, parce qu'on parle beaucoup voilà, de l'influence du passé et puis on pense à pas mal de choses qui concernent notre éducation. Et je pense que ça peut être bon aussi de réaliser que quand on est dans cette démarche, on n'est pas en train de revisiter toute notre éducation en regardant tout ce que nos parents ont mal fait, ou voire même nos grands-parents. Et on a dit tout à l'heure hein, que ces influences, il y en a des bonnes et des mauvaises. Et en fait, il y a tout un tri à faire, hein, une réflexion importante à avoir. Mais on veut aussi vraiment reconnaître l'importance de l'héritage qu'on a, en fait. Et pour ceux d'entre nous qui avons eu des parents qui nous ont apporté des bonnes choses, voilà, qui nous ont transmis des vérités, des choses vraiment importantes, c'est bon de les garder précieusement. Et c'est bon aussi de les avoir encore. Si on les a encore dans nos vies, c'est bon aussi retourner les voir et de demander conseil. Hein. Je pense qu'on est dans une ère, en fait, on a tendance à beaucoup chercher parmi les gens aussi inexpérimentés que nous les conseils. Je pense que c'est aussi beaucoup comment nourri par le fait qu'on peut trouver plein d'anecdotes et de conseils et de personnes un peu comme nous sur les réseaux sociaux. On peut suivre quelqu'un sur Instagram, mais en fait, on n'a aucune idée de ce que cette personne vit vraiment. Mais l'impact et le sage conseil de nos aînés, que ce soit nos parents ou même des personnes plus âgées dans notre vie, il n'est pas non plus à mettre de côté. Et c'est aussi des bonnes influences qui perdurent, quoi.
Ouais. Et je pense que la différence qu'on peut faire, c'est est-ce qu'on est en train de subir ces influences du passé ou est-ce qu'on est en train d'en faire un choix conscient? Parce que pour revenir sur ton exemple, Rachel, avoir une maison propre et bien rangée, c'est une bonne chose. Mais le mauvais symptôme qui est ressorti chez toi, c'est que tu utilisais cette influence du passé comme une excuse pour te mettre en colère quand c'était pas bien fait. Oui, mais je viens d'une famille où c'était toujours fait comme ça. Voilà.
Exactement.
Alors que tu pourrais continuer à porter cette valeur dans ta famille de ben, soit propre, quoi, bien rangée, mais d'une manière où tu n'es pas en train de subir ce que tes parents t'ont transmis, mais que tu choisis de faire perdurer dans ta famille comme étant une bonne valeur.
Ça.
J'apprécie beaucoup cette pensée aussi, Rachel, qui m'oriente vers trois aides que je voulais suggérer pour cet aspect de notre stratégie familiale, ce regard dans le passé. Et je pense qu'il y a trois choses qui peuvent nous aider en faisant ce travail-là. Et une aide, c'est justement l'aide de la reconnaissance. Là, ce que tu suggères, c'est que tout n'est pas mauvais dans notre passé. Et c'est vrai, alléluia. Et je pense qu'il y a de la place quand même pour regarder en arrière et pour se rappeler de toutes les différentes preuves de la grâce de Dieu, même peut-être avant notre conversion, avant de connaître Jésus-Christ. Dieu était quand même à l'œuvre. Et en fait, et on était bénéficiaire de sa bonté sans même savoir que c'était lui. Et donc, j'encourage vraiment que, avec ce regard dans le rétroviseur, qu'on prenne en compte les belles choses et les différentes preuves de la bonté et de la grâce de Dieu et qu'on remercie notre Seigneur. C'est aussi une belle chose à faire en présence de nos enfants, en fait, de pratiquer la reconnaissance, même en racontant nos histoires. C'est très important que nos enfants entendent parler de notre passé. Parce que eux aussi, ça les aide à se situer et ça les apprend aussi à réfléchir d'une manière qui est saine et même biblique par rapport à notre passé, à ne pas avoir peur de parler de choses difficiles, mais aussi à ne pas passer à côté de la bonté du Seigneur. Je ne sais pas si vous voulez rebondir sur cette notion de reconnaissance-là.
Non, c'est génial. J'adore l'idée de raconter les histoires avec un prisme de reconnaissance. C'est génial.
Il y a quand même une deuxième aide que je pense qui peut être bénéfique. Sans oublier ce que Rachel a dit tout à l'heure, j'aimerais juste ressouligner ou souligner le fait que parfois on aura besoin quand même, en faisant face à notre passé, d'un accompagnement, parfois de la part de quelqu'un qui est formé, qui a des compétences. Et moi, je dirais en tant que pasteur, de préférence avec une vision biblique, quelqu'un qui comprend bien l'évangile. Et c'est vrai que si on est accompagné par quelqu'un comme ça, ou même si on fait ce travail tout seul, tôt ou tard, en regardant en arrière, on sera confronté par la réalité du péché. C'est vrai que dans le texte que Rachel a lu tout à l'heure, c'est ce que Paul est en train de dire. On fait face à la réalité de notre péché devant Dieu. Et en fait, une aide face à ces réalités-là, c'est ce que la Bible appelle la repentance. C'est juste plutôt que de chercher à cacher ces choses ou faire comme si ces choses n'existaient pas. En fait, conscient des belles vérités de l'Évangile, on vient devant Dieu avec du courage et on reconnaît notre péché devant lui. Jean appelle ça, en fait, il décrit ça comme une marche dans la lumière, le fait de marcher à la lumière. Et là, on est ouvert et honnête devant Dieu. Bon, regarde ce que j'ai fait, Seigneur. Je regrette et je te demande de me pardonner. Et c'est justement une manière de faire une coupure devant Dieu par rapport à ses influences du passé, reconnaître que c'était mauvais, c'était pas dans le plan de Dieu pour moi et j'ai plus envie de vivre comme ça. Et puis juste peut-être une troisième aide. C'est ce que j'appelle, ou c'est ce que la Bible appelle justement la réconciliation. C'est le fait que parfois, quand on regarde en arrière, et que ce soit à cause de notre propre péché ou le péché de quelqu'un d'autre, parfois on va trouver des relations brisées. Et là, en fait, notre Seigneur nous invite à ne pas laisser ces relations dans un tel état. Bon, il faut qu'on nuance ça peut-être un tout petit peu en reconnaissant qu'il y a certaines relations où peut-être ce ne serait pas une bonne idée d'ouvrir de nouveau la porte. Parfois, certaines relations peuvent être vraiment toxiques et là, il y a une certaine manière de gérer ces relations devant le Seigneur pour pas qu'on garde rancune dans nos cœurs ou amertume, qu'on arrive à pardonner, mais tout en reconnaissant que peut-être c'est pas une bonne idée de rétablir la relation. Et je pense que dans beaucoup de cas, il y a cette possibilité d'une démarche de réconciliation où l'Évangile nous donne les outils nécessaires pour aller chercher à rétablir une relation qui a été brisée par le péché. Donc voilà trois aides qui peuvent nous accompagner dans le processus de regarder en arrière, de prendre en compte l'influence de notre passé sur notre vie actuelle avec nos enfants.
C'est excellent, Nico. Ça nous donne des pistes très concrètes de comment réfléchir sainement à notre passé en établissant une stratégie familiale pour vivre une relation parent-enfant en bonne santé. Le thème de notre prochain épisode, c'est un gros thème, c'est la communication, qui est une composante essentielle de toute stratégie d'entreprise ou quoi qu'est-ce, mais de stratégie familiale. En fait, notre communication, ça peut soit être notre pire ennemi, soit notre meilleur ami en ce qui concerne notre projet parental. Donc, je vous donne rendez-vous la prochaine fois.
Et en attendant, quelles seraient donc deux actions concrètes qu'on peut suggérer? Alors, si vous avez commencé ce journal dont on a parlé au premier épisode et au deuxième aussi, bah, on vous invite à continuer à le faire cette fois-ci en lien avec ce que Nico vient de nous exposer, de prendre le temps de noter en fait ces points de reconnaissance, de repentance, de réconciliation. En se rappelant, comme tu disais Nico, que voilà, ça passe par du pardon qui n'aboutit pas toujours à la réconciliation, mais c'est nécessaire de revoir tous ces points et il y a vraiment des choses importantes qui peuvent en ressortir. Et bah, si vous avez des difficultés en fait à examiner votre passé tout seul, vraiment de ne pas hésiter en fait à chercher dans votre entourage, dans votre réseau des personnes, une personne qui sera bien équipée, bien outillée pour pouvoir vous accompagner dans cette démarche. Qui pourra vraiment porter du fruit en fait dans votre réflexion et dans votre vie de famille. Nico, est-ce que tu veux conclure pour cet épisode?
Avec plaisir, avec une petite parole de bénédiction, que nos cœurs soient convaincus des grandes vérités de l'Évangile de Jésus-Christ. afin que nous ayons du courage pour faire face à notre passé, à l'exposer à la lumière de la parole de Dieu, et que Dieu nous transforme par le renouvellement de notre intelligence, afin que nous portions beaucoup de bons fruits au sein de nos familles et au sein de nos entourages. Amen.
Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Parents pour le plaisir. Notre prière, c'est que tu connaisses concrètement cette semaine le plaisir d'être toi-même enfant de Dieu.